Bienvenue dans la deuxième partie de cette onde noire.
Et comme nous vous l'avions annoncé, donc quelques chroniques. Et on pourrait donner un titre à l'ensemble de nos chroniques de cette deuxième partie. Ça pourrait s'appeler « Du blanc dans le noir ». Vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, j'ai d'ailleurs pensé vous parler des deux livres qui vont suivre dans une même chronique. Comme vous allez le voir, ce sont deux romans très dissemblables. Pourtant, ils ont beaucoup de points communs. Le premier, c'est « Les immensités blanches » et encore un autre « Très haut dans la montagne ». Pour le roman de Sandrine Colette, qui s'appelle « Six fourmis blanches », ça se passera en Albanie. Je précise que ce roman vient de paraître chez De Noël. Pour le roman de Craig Johnson, dernier sorti, ça se passe dans le Wyoming et juste à côté du Wyoming, en haut des « Big Horn Mountains ». C'est un roman qui s'appelle « Tous les démons sont ici » et il vient de paraître aussi chez Gallmeister. Et l'on y retrouve avec une délectation certaine le shérif Walt Longmire.
Et il est traduit par
Sophie Aslanides. Autre ressemblance, dans ces deux récits, les esprits maléfiques ne seront jamais loin des personnages. Le froid peut-être qui engourdit les cerveaux et donc la vision du monde, mais aussi les peurs ancestrales qui ressurgissent dans ces conditions extrêmes. Et puis, dans les deux romans, des lacs glacés joueront un rôle majeur, comme le lac d'ailleurs italien du même nom, le lac Majeur. Enfin, un fan de polar remarquera que ces deux écrivains, l'un américain, l'autre française, Sandrine Colette, ont tous deux, assez récemment, obtenu un trophée 813. Donc, l'année dernière, en 2014, pour Sandrine Colette, et il y a quand même quelques années, puisque ça fait déjà 5 ans, en 2010, le trophée du meilleur roman étranger pour le natif du Wyoming, Craig Johnson. Je vais donc commencer par celui-là, et de tous les romans, les 7 qui sont traduits et qui concernent Walt Longmire, on peut dire que c'est un des romans les plus noirs de Craig Johnson. Et je ne sais pas ce que son personnage fétiche, le shérif du comté d'Absaroka, lui a fait pour l'embarquer ainsi dans une histoire pareille. Du plus, ça commence assez cool. Le flic et son adjoint doivent accompagner 2 prisonniers, parmi lesquels un des pires criminels qui soit, un psychopathe nommé Shade, et puis il y en a un autre, lors de leur transfert qui passe par leur juridiction. Mais les prisonniers s'évadent en tuant certains des gardiens et en prenant d'autres en otage. Il se dirige vers les Big Horn Mountains au moment même où une des pires tempêtes s'abat sur la région. Il faut dire qu'on est au mois de mai et il va atteindre quand même dans le livre des moins 40. Ça fait drôle.
J'imagine qu'est-ce que ça peut être l'hiver.
Oui, contre toute raison, le shérif, que l'on peut ici qualifier d'intrépide ou bien encore d'inconscient, décide de poursuivre seul, à motoneige, les fuyards. Et ce sont les mots de Sandrine Colette dans « Les fourmis blanches » qui résument l'état d'esprit de Walt Longmire. Nous autres, nous entrons dans la montagne avec précaution, presque sur la pointe des pieds, avec la déférence de ceux qui savent partager un territoire qui n'est pas le leur. Nous ne revendiquons rien que l'espoir d'être tolérés et nous admirons ce qui existe peut-être depuis la nuit des temps, la brutalité, l'instinct et la vie. Ça pour ça, Longmire, il va être servi. Et pour lutter contre la tempête qui s'annonce, mais aussi contre le mal absolu qu'incarnent Shane et ses complices, quelques chips, quelques barres chocolatées, et surtout un petit livre, un des chants de la Divine Comédie, évidemment, celui de l'enfer, l'accompagne. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi quelques esprits bienveillants, des Indiens invincibles, et quelques fantômes dans ces montagnes. Et ça, tout ça, ça va donner une espèce de force surnaturelle au shérif, qui, armé le plus souvent, certes de temps en temps d'une arme, mais le plus souvent simplement des mots de Dante Alighieri. C'est donc un récit allégorique, poursuite infernale dans une nature hostile. Pourchassant le mal absolu, comme je l'ai déjà dit, incarné par l'Indien Reno Shade, Walt Longmire va être aidé, sauvé, par le récit de Dante, et les mises en abîme entre les deux récits sont nombreuses. D'ailleurs, quand on parle d'abîme ici, ils ne sont pas que métaphoriques. Ainsi, Walt Longmire, au cours de son excursion dans les cercles de l'enfer, va être guidé, protégé en quelque sorte par un Indien étrange, sorti de nulle part, si, d'une des premières aventures de Walt Longmire. Et il s'appelle cet Indien Virgil White Buffalo. Et oui, Virgil. Virgil sans eux, mais Virgil quand même. Virgil et Dante qui, je le rappelle, sont réunis dans un même tableau de Delacroix. Et quand Dante décrit l'enfer, c'est aussi à l'âme de Virgil que celui-ci demande de l'aide pour sortir de ses cercles de l'enfer. Qu'il voit d'ailleurs, Dante, l'enfer comme une forêt obscure, comme celle que traverse le shérif. Et puis aussi, il y sera question d'une Béatrice, la dame adorée du sieur Alighieri. Et dans ce roman, amante déçue du méchant dans le roman de Craig Johnson. Les cercles de l'enfer, je vais maintenant passer au deuxième roman, c'est aussi ce que devront supporter les personnages perdus dans les montagnes albanaises de Sandrine Colette. Six fourmis, six trekkers, qui vont partir pour un week-end de vacances à la suite de Vigan ou peut-être Vigan, leur guide. Il y a Ariel, Marc, Étienne, Lucas, et puis Lou, c'est la narratrice, avec Elias, son compagnon. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la tempête. Et ici, je vais revenir à Craig Johnson. Je vous avais dit que de nombreux ponts pouvaient être établis entre ces deux romans. Je cite. « La chute de neige avait augmenté en intensité au point que nous étions désormais dans un véritable jour blanc. Je ne parle pas des cas où il tombe 5 à 10 cm de neige et que l'on prend à tort pour un jour blanc, mais d'un vrai blizzard de montagne, comme dans les livres, sans le moindre vent, et où on ne pouvait pas faire la différence entre l'air et la terre. » Et c'est Lou qui, en voyant cette tempête, pense « l'enfer ». Et ce qui devait être donc une joyeuse randonnée se transforme en tragédie quand l'un d'entre eux est emporté dans une avalanche. Pour les 5 fourmis qui restent, des esprits maléfiques semblent bien hanter les pentes qu'ils vont tenter vainement de gravir. L'autre voix de ce récit, c'est Mathias. Lui, il sait bien qu'on ne peut pas survivre en montagne si l'on ne sacrifie pas quelques chèvres à ses démons, qui vous accorde alors quelques répits en échange de ses rituels. Son métier, donc, c'est sacrificateur. Il a le don, parce que lui, il sait lire dans les osselets. Il sait choisir la chèvre qu'il faut précipiter de la montagne. Et lorsque Karche, le mafieux, qui règne en maître dans le coin, lui confie son petit-fils, qui aurait le don, il sent tout de suite que cela va mal tourner. Et effectivement, ça tourne mal, et Mathias doit fuir dans ces montagnes qu'il connaît si bien, mais qui pourraient être tout à la fois sa sauvegarde ou bien son tombeau. Comme dans ses deux précédents romans, Sandrine Colette instille à travers les histoires qu'elle nous raconte une atmosphère assez incroyable. À travers le récit que nous conte d'un côté Lou et de l'autre côté Mathias, on a cette atmosphère étouffante, angoissante, qui grandit, s'amplifie, sans pour autant que ne coule l'hémoglobine ou qu'un serial killer ne découpe ses victimes en lanières. Non, pas d'effet de manche. Et c'est vraiment là toute la réussite des romans de cet écrivain, de puiser dans les contes, dans les légendes, pour nous emmener au plus profond de nos cauchemars à nous, de nos peurs à nous autres, les lecteurs. Les randonneurs, le guide, Mathias, autant de personnages qui fuient, qui se débattent envers leur destin, mais destin qui est de toute façon inéluctable, et qui est le même pour chacun d'entre nous, que ce soit au plus profond d'une forêt, en plein blizzard, on peut toujours croiser le diable, ou croire qu'on va le croiser. Et contrairement aux peintures qui nous montrent les pauvres pêcheurs brûlant sur les feux d'un enfer qui semble donc une véritable fournaise, n'oublions pas, en lisant ces deux livres, que Dante, dans la Divine Comédie, nous décrit un enfer de plus en plus froid au fur et à mesure que l'on s'y rapproche. Peut-être bien que les six fourmis et Mathias auraient dû, comme Longmire, le shérif du comté d'Absaroka, emporter Dante dans leur sac à dos. Donc je rappelle les titres de ces deux romans, Six fourmis blanches, Sandrine Colette, Chez de Noël, collection Sueur froide, et Tous les démons sont ici. L'écrivain du Wyoming, Craig Johnson, revient avec Wild Longmire, et c'est évidemment chez Gallmeister, dans la collection Nature Writing.
Non, noir.
Oh pardon, mais ça se confond un peu, on en reparlera d'ailleurs bientôt. Maintenant, nous continuons dans les immensités glacées.
Eh bien oui, et donc on va rester dans le Grand Nord, mais pour une fois...
Non, on n'y était pas dans le Grand Nord, on était dans les hautes montagnes, c'est pas tout à fait pareil.
Là, on va aller dans le Grand Nord, mais pas celui de l'Europe où on vous amène de temps en temps avec nos écrivains scandinaves, mais dans le Nord de l'Amérique, car ce roman se déroule en Alaska, dans le tranquille patelin de Chukchi.
C'est sûr de la prononciation ?
Oui, oui. Il se trouve dans l'état de l'Alaska, donc à près de 2 heures d'avion dans le nord-ouest d'Anchorage. Alors, je ne sais pas si vous savez où est Anchorage.
Alaska, peut-être.
En Alaska, exactement. Donc, ça fait à peu près 2 heures d'avion, je disais, et 1200 km par la route, sauf qu'en fait, route, il n'y en a pas. Et nous sommes en plein pays des Esquimaux Inuits, ou les Inupiaq, comme ils se dénomment dans leur propre langue. Alors, c'est un patelin tranquille, certes, mais paumé, 2500 habitants. Les seules distractions, pas forcément dans l'ordre, sont la chasse aux caribous, l'alcool, le sexe, ou battre sa femme, quand on est un homme, évidemment. Du coup, les ligues de tempérance veulent faire interdire la consommation d'alcool.
Ça s'est déjà vu à d'autres lieux.
Voilà, et aux prochaines élections, qui sont bientôt, enfin du moins au moment où se déroule le début du roman. Et c'est dans cette période qu'il va y avoir 2 suicides consécutifs, dans la même famille, dans la même semaine, dans le même coin pratiquement, et surtout avec le même mode opératoire, une balle de fusil dans la gorge. Nathan active, c'est le jeune flic du patelin, il va mener l'enquête, car il doute fort que les deux suicides, en soi.
C'est dur comme allitération, deux suicides en soi.
Exactement. Et surtout qu'une vieille alcoolique a vu quelque chose. Bon, alors peut-être elle a vu des monstres, des visions qui sont dans son alcool, mais n'empêche que ça lui met le doute. Et puis, tous les deux travaillaient pour la mine. Il y a beaucoup de chômage dans le coin, c'est dire l'importance de cette mine, une mine norvégienne de cuivre. Elle a apporté du boulot, des ressources financières, et il est donc très difficile de les soupçonner, voire de les accuser d'une quelconque malversation, encore moins de pollution. Et pourtant, c'est bien vers ça que se dirige Nathan Active, le flic. Alors ce flic, Nathan, c'est un Inupiaq. Il est natif du coin, mais il a été élevé par des Blancs, parce que sa mère l'a abandonné. Il a été élevé dans la grande ville qui est Anchorage. Du coup, il n'est considéré ni comme un Inuit par les Inuits, ni comme un Blanc par les Blancs. Et cette enquête va lui permettre, espère-t-il, d'enfin s'intégrer, et aussi de gagner du galon pour quitter ce désert blanc, ce désert neigeux. Je ne l'ai pas précisé, mais ça se passe en hiver. et les déplacements en dehors des routes balisées ne peuvent se faire qu'en motoneige ou en petit avion, qu'on peut le louer à celui qui en possède un, ou à moins qu'on en ait un sur l'aéroport du coin.
C'est très bête de louer un avion à quelqu'un qui n'en possède pas d'un autre côté.
En effet, c'est pas bête. Et donc, c'est le premier roman de Stan Jones, et c'est vraiment bien réussi. Alors, il nous fait bien vivre l'ambiance du nord de l'Alaska. Et je vais lire un petit passage pour vous donner une petite idée. Donc, ça se passe, ils vont enterrer le premier des suicidés. L'air qui jaillit était froid, mais un peu moins qu'à l'extérieur. Et donc, c'est le flic qui sont dans une voiture. Les deux flics sont dans une voiture. Comment s'y prend-on pour creuser une tombe après le gel sans quille active ? On allume un feu pour dégeler le sol ou quelque chose comme ça ? Non, on les creuse avant le gel. Active pivota pour dévisager Silver. Sérieux ? Combien de tombes ? Une dizaine en général. Et comment prévois-tu le nombre ? Je n'en sais rien, sans doute l'expérience. Et si quelqu'un d'autre meurt ? Eh bien, on place le corps dans une fourgonnette à l'arrière de l'hôpital et on prie pour que le sol dégèle avant le cadavre. Et donc, évidemment, c'est l'ambiance aussi parce que ça revient. Il y a aussi du blizzard, mais en même temps, c'est l'hiver là-haut. Dès qu'il y a un peu de vent, c'est vite glacé. Alors, je disais que, voilà, donc il nous fait bien vivre l'ambiance du nord de l'Alaska. Il y a vécu longtemps, l'auteur Stan Jones. Et il y a des descriptions de repas, alors je vous cite un peu, de la graisse de phoque sur des biscuits de mer, ou alors apparemment ce qui a l'air d'être le nec plus ultra, de la peau de baleine bouillie à la moutarde. Bon, la peau de baleine, c'est déjà quand même relativement épais.
Je garde la moutarde.
Voilà. Alors son personnage est jeune, optimiste, têtu, incorruptible. Cela nous change un petit peu de certains vieux flics alcooliques, qu'on aime bien aussi, mais bon, ça fait un petit peu...
Oui, neurasthénique en même temps.
Voilà, ça change. Et il a aussi des préoccupations de jeune, trouver une bonne amie, faire carrière, etc. Des bonnes amies, d'ailleurs, il n'a pas de mal à en trouver parce qu'il a l'air assez beau, du moins d'après les descriptions. Alors bien sûr, ça peut aussi vous faire penser un petit peu à Olivier Truc et ses lapons, peuple aussi indigène, malmené par la vie moderne, avec des croyances ancestrales, comme... Parce que je n'ai pas dit le titre, en fait, jusqu'à présent. Et le titre, ça s'appelle L'homme qui tue les gens. Il est paru donc aux éditions du Masque. Et il est traduit par Frédéric Grelier. Et L'homme qui tue les gens, en fait, en Inupak, c'est un personnage qui est du folklore. Et ça se dit Inuknalok. Et c'est aussi...
C'est le titre original en anglais, c'est ça ?
Non, parce que le titre original en anglais, ça s'appelle, si je traduis, Ciel blanc, neige noire.
C'est très joli,
ça correspond aussi bien à l'histoire. Alors ici, il n'y a pas de rennes, parce que ce sont des caribous. Et en plus, ils ne sont pas vraiment domestiqués comme chez les lapons. Par contre, on les chasse, et vraiment, on les chasse bien, parce que de toute façon, ils n'ont rien d'autre à faire que de chasser en même temps.
Bah, si un morceau de renne, ça doit bien changer de la baleine bouillie. Hein.
Voilà, oui. Non, du caribou, pas du renne.
Ah pardon, le caribou.
Ah oui. Ah, oui. Et l'enquête est très très bien menée, prenante, et elle dure que quelques jours à peine. Et il y a pas mal de mots en inuit dans le texte. Mais il y a un glossaire au cas où, mais on s'en sort très bien au bout d'un moment, on a très bien compris qu'est-ce que c'était que la graisse de phoque, comment ça s'appelait, en inuit. Et en plus, c'est une série de romans, il en a déjà fait paraître 4 aux États-Unis.
Espères le suivant ?
Ben, j'espère déjà le suivant, oui, parce que c'est vraiment, ce flic est vraiment Nathan Active, c'est un français, je ne sais pas si c'est en anglais Active, ça existe aussi.
Ça fait drôle quand même, mais écoute, on est dans l'Alaska. Hein.
Exactement.
Donc c'est la fin de notre émission, on va vous souhaiter... de bonnes semaines de lecture, et puis entre-temps, chacun dans son coin avec un bon bouquin. Au revoir Jacques.
Au revoir, à bientôt.